le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
On fait tout cela parce qu'on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse finalement mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
C'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Le sujet d'aujourd'hui, du coup, c'est être PD en milieu rural. C'est pas un sujet spécifique sur les luttes paysannes, mais plus sur la ruralité et cette question de comment être homosexuel à la campagne. Pour ça, on a une discussion avec toi. Je sais pas ton pseudo.
Arthur.
Donc Arthur, bah, en fait, je te laisse te présenter. Et puis, moi, j'avais pensé à introduire un peu le sujet, mais je sais pas, peut-être je le fais après. Ou...
Ouais, bah, je peux dire un peu qui je suis, de où je parle, et puis après tu lances, c'est ça? Eh ben voilà, je me définis plutôt comme PD, gay, homo, enfin j'ai un peu ces trois casquettes là, enfin j'ai un vécu en tout cas de gay et de PD, et je suis actuellement paysan depuis un peu plus d'un an et demi là. Et sinon j'ai eu toute mon enfance dans un milieu très rural, parce qu'on était une vingtaine d'habitants dans le village où j'étais. Du coup c'est un peu de ce point de vue là que j'ai entrepris d'orienter mes recherches en sociaux et en géographie sur le vécu homosexuel en milieu rural, tout au moins loin des grandes villes, loin des métropoles, quoi. J'ai produit un mémoire de recherche qui combinait aussi bien des axes d'analyse tirés de la sociologie, de la géo, un peu de l'anthropo, et donc un travail de recherche qui a duré, enfin il y a eu un an de terrain et puis après quelques mois de rédaction.
Et quand tu disais que tu étais devenu paysan, bon, ça fait un an et demi, mais tu as envie de raconter un peu ce que tu fais, ce que vous faites, enfin, dans quel cadre ça se passe?
Bah, c'est un cadre collectif, en fait, c'est une ferme. Et donc on est une dizaine à y vivre et à travailler un petit peu en fonction de nos goûts. Et se répartir certaines tâches, certaines autres qu'on fait ensemble, voilà, en fonction de nos disponibilités. Donc il y a aussi bien du maraîchage que de l'élevage, c'est qu'autour des arbres, de la forêt, dans un délire un peu d'équilibre agro-silvopastoral. Wow. Voilà. Et en essayant de rechercher aussi un maximum à s'autonomiser sur nos pratiques de vie quotidienne, alimentaire, nos pratiques entre nous, politiques, affectives, etc.
Alors, être PD en milieu rural. À un moment, je discutais avec deux autres personnes, quelqu'un de ma génération, qui est devenu paysan aussi depuis, et quelqu'une un peu plus âgée, et du coup, je sais pas comment on est venu à parler d'homosexualité, mais le plus jeune a fait un lapsus énorme en disant que je sais pas quoi, telle chose pouvait pas arriver dans les milieux paysans, en gros, des situations pouvaient pas se présenter dans les milieux paysans, sous-entendu, tous les paysans sont en famille, en couple, hétéros. Et les deux autres, donc moi et la personne plus âgée, on l'a regardé un peu bizarre, on était vraiment surpris d'une affirmation franche et sans nuance. Et parce que en fait, ben, on sait très bien que c'est pas la réalité, et que du coup, l'homosexualité transcende tout un tas de, de milieu de vie, de métier. Il n'y a pas des métiers plus, plus hétéros que d'autres. Et du coup, il n'y a pas une exception pour les paysans par rapport à l'homosexualité, que ce soit pour des femmes lesbiennes ou des hommes gays. Il y a des paysans homos et des femmes lesbiennes qui sont paysannes. Et par contre, ben, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est forcément très visible, qui est acquis pour tout le monde visiblement. Enfin, et visiblement, ben, ça touchait assez de près ton sujet d'étude. Alors, je sais pas si tu veux te lancer.
Bah ouais, c'est vrai que ça me parle pas mal comme intro, parce que c'est vrai que dans un peu dans les clichés, les idées reçues qu'on peut avoir autour du milieu rural, il y a quand même pas mal ce truc où c'est un espace où les gens sont dans des catégories assez claires par opposition à la ville où tout serait plus mouvant. Avec le fameux proverbe « l'air de la ville rend libre » et du coup libre de changer de catégorie, de changer d'identité. On peut imaginer plus le milieu rural comme un truc un peu plus traditionnel, figé, où par exemple sur les questions sexuelles, du coup il y aurait des hommes et des femmes qui correspondraient à leur identité de genre et du coup à leur aussi identité sexuelle qui est d'être hétérosexuel. Du coup c'est vrai que sur ce milieu rural il pèse un peu un truc de qu'on peut appeler d'hétérosexisme, c'est-à-dire d'une évidence que l'hétérosexualité est la norme et que du coup elle est même pas remise en question, elle est même pas posée comme une norme, quoi. C'est juste évidence, elle est même pas pensée, quoi. Et après, en particulier dans le monde paysan, qui est peut-être une des facettes du monde rural les plus évidentes, quoi. Quand on pense à la campagne, on pense aux personnes qui utilisent cette campagne, quoi, donc les paysans. Et comme il y a quelque chose d'un métier assez ancestral, avec des traditions familiales, des traditions de territoire, c'est vrai qu'on n'imagine pas que ça puisse être un espace où il se déroule des choses anormales, anormées, entre guillemets, comme l'homosexualité, quoi. Donc ça revient souvent, ce truc de dire « Ah bah, à la campagne, il y a plus d'homophobie, ou bien à la campagne, il n'y a pas de PD, et tous les PD sont en ville, les Gouines aussi, les associations LGBT, les bars, les boîtes pour les LGBT, ils sont en ville, à la campagne, il n'y a pas ça, quoi. » Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est quand même vraiment, vraiment à nuancer, quoi. Et c'était un peu l'objet de mon travail, quoi, d'essayer de montrer que cette fuite vers la ville des LGBT, elle était quand même vraiment pas si évidente, et que aussi bien il y a des personnes lesbiennes, bi, gwyn, trans, etc., à la campagne, qui grandissent là-bas ou qui reviennent plus tard.
Du coup, moi en t'écoutant là, je me disais qu'en fait, ben, sûrement que ça dépend aussi un peu des campagnes, des réalités culturelles dans les territoires ruraux. J'avais l'impression, autour de nous, dans notre paysage social en tout cas, on connaissait des couples lesbiens, des couples gays. Certaines étaient en activité sur des fermes. Bon, c'était dans une région de montagne où il y avait eu tout le mouvement néo-rural dans les années 60-70. Peut-être que ça a facilité l'intégration, en tout cas, de couples. Mais je me demandais si c'était pas lié quand même au fait que ces personnes vivaient en couple. Et j'imagine que c'est sûrement différent quand on n'est pas en couple et qu'on est homosexuel.
Bah, c'est vrai que de se visibiliser comme un couple, c'est déjà une forme de se visibiliser dans une forme de norme, quoi. Que bah là, passé un certain âge, on attend des gens qui soient pas forcément mariés en 2014, mais au moins en couple. Et du coup, même s'ils dérogent à la norme de l'hétérosexualité en étant un couple de Gwyn ou un couple de PD, c'est quand même déjà une forme de norme. Et du coup, il y a une forme d'acceptation qui va avec ça. Et puis aussi le fait, voilà, qu'en étant en couple, on est beaucoup plus facilement visible que quand on est seul, dans ce truc d'une relation qui est homo. Et donc, du coup, ça peut paraître un peu plus évident pour les gens qui sont autour, quoi.
Du coup, sur la partie invisible, forcément, on est invisible, donc on n'est pas vu, donc voilà, les gens se disent que ça n'existe pas. Comment on vit son homosexualité dans ce cadre-là, si c'est plus facile d'être accepté en tant que couple quand on n'est pas en couple?
Bah, ce truc d'invisibilité, c'est une des pistes par lesquelles un peu je suis entré. Au début, en fait, j'avais commencé à bosser sur ce truc de l'homosexualité en milieu rural en partant un peu autour de l'idée de l'homophobie et des violences subies, aussi bien des violences physiques que verbales, quoi. En essayant justement de casser le tabou de dire le monde rural est homophobe, quoi. Donc autour de l'homophobie. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'un des soucis peut-être qui était, enfin, une des choses qui faisait que le quotidien était plus spécial en milieu rural pour les homos, c'était justement le fait d'être invisible et du coup de pas voir les autres homos avec qui ils auraient pu avoir des relations amicales, sexuelles, amoureuses, etc. Et que c'était quelque chose qui était plus problématique au quotidien que l'homophobie subie, quoi. Et donc, du coup, je suis rentré plus par cet angle de l'invisibilité, quoi. Parce qu'à partir du moment où on est invisible, comment faire pour se rencontrer? Et autant on peut dire que ce qui caractérise un peu la campagne, c'est la distance. Bon, on est loin des villes, on est loin des hôpitaux, des cinémas, des magasins, etc. Alors qu'en ville, on peut imaginer que tout est proche. Pareil, on est proche en tant que des lieux de loisirs, de consommation, etc. Et même si on pousse un peu le raisonnement un peu plus loin, en disant que même à la campagne, il y a des formes de proximité dans les relations qu'on ne peut pas trouver en ville à cause de l'anonymat. À la campagne, on peut être proche de ses voisins, on peut être proche des gens avec qui on vit, parce que voilà, il y a tout un tas de liens qui se créent. Mais du coup, sur le truc de la rencontre, et ben, en milieu rural, on peut pas être proche d'un... En tant que homo, on peut pas être proche de d'autres homos, parce que en fait, numériquement, ils sont bien inférieurs au kilomètre carré, disons, qu'en ville, quoi. Et du coup, forcément, pour trouver ces gens-là, il va y avoir tout un tas de démarches ou des formes de mobilité un peu spéciales, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi tout ce truc de un peu fantasmé de du monde rural comme un espace où, en effet, il faut, en tant que mec, ressembler à un vrai mec, ou en tant que meuf, ressembler à une vraie meuf selon les clichés de ce que c'est qu'un vrai mec et une vraie meuf, évidemment. Parce que voilà, c'est censé être un monde un peu plus traditionnel, un peu plus naturel, où on n'est pas perdu dans la décadence de la cité. Et du coup, on surjoue, en tant que mec, par exemple, on surjoue une forme de virilité pour ne pas déroger à la norme de la virilité. Et du coup, par exemple, si jamais on est pédé, on va faire en sorte de bien ressembler à des hommes pour pas que les gens qui nous connaissent du village à y croire qu'on n'est pas hétéro. Il y a une forme comme ça de d'hypercorrection du stigmate, comme dit le sociologue Goffman, là, où du coup il y a des formes de passing, on essaie de se cacher derrière une façade hétéro virile. Du coup, ce qui renforce l'invisibilité et la difficulté pour les homos de savoir qui est un des leurs, quoi, entre guillemets. En fait, ce truc d'être invisible, ça correspond aussi à une période de la vie. Il y a des gens qui vont essayer d'être invisibles toute leur vie en tant que PD. Mais pour pas mal de personnes, c'est un moment, en fait, où t'es invisible parce que t'as pas encore vraiment trouvé le moyen d'être au clair avec ça, avec les gens avec qui tu vis. Et du coup, c'est souvent une étape, quoi. C'est un processus. Et après, tu peux arriver à des parties où tu te sens beaucoup plus à même d'être visible. En couple ou pas, d'ailleurs, mais...
Parmi les gens que tu avais interviewés, là, il y avait quelqu'un qui trouvait les jeunes extravagants. Enfin, finalement, il y aurait une façon aussi un peu de se comporter, d'essayer d'être invisible, de pas trop manifester de son homosexualité de façon ouverte et assumée. Qu'en milieu rural, ce serait un peu déplacé, quoi.
Enfin, ça, on le retrouve aussi en ville, mais... Mais d'autant plus dans le milieu rural où on s'attend à ce que tout le monde reste un peu plus à sa place, quoi. Et du coup, C'est vrai qu'une personne qui aura un comportement de genre qui correspond pas vraiment au genre qui donne à voir, quoi. Si quelqu'un ressemble à un mec et qui commence à avoir des comportements qui peuvent être perçus comme efféminés par certains, c'est une personne qui déroge à son rôle et du coup il peut être taxé en effet de provocation, d'en faire trop, de... Je sais pas quel terme peut utiliser.
L'extravagance.
Et voilà, bah ça c'est vraiment le terme qu'on retrouve souvent, quoi. Et en fait, c'est un terme qui est utilisé souvent aussi par les homos eux-mêmes, quoi, qui vont dire « Ah non, mais un tel, je le trouve vraiment trop extravagant. » Ou un peu comme si il y avait une forme de respectabilité en disant « Moi, je suis un homo respectable parce que je ne suis pas extravagant, je ne donne pas à voir qui je suis. » Et par opposition à certains gens, à certaines personnes, pardon. Et donc, il y a aussi ce truc-là, des jeunes qui seraient plus extravagants parce qu'il y a une forme de s'assumer un peu plus clair, quoi.
Tout à l'heure, t'as parlé de l'homophobie à la campagne, à savoir qu'il y a peut-être un cliché, une idée reçue comme quoi il y aurait potentiellement plus d'homophobie en milieu rural relativement au fait que le territoire rural serait perçu comme étant plus traditionnaliste, tout ça, mais c'est pas forcément une évidence. T'as réussi à décortiquer des mécanismes pour déconstruire ce truc-là ou...
Eh ben, il en est ressorti quand même pas mal que les personnes en couple subissaient moins de marques d'homophobie. Les personnes qui étaient vraiment au clair avec ça et qui avaient aucune difficulté à en parler et à rentrer un peu dans l'art des personnes qui les embêtaient là-dessus, bah du coup très rapidement subissaient plus trop d'homophobie. Et du coup, c'était vachement lié à une forme de comment tu vis ton homosexualité, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ça, comment t'es assumé, quoi. Et parmi voilà la trentaine d'enquêtés que j'ai pu avoir, il y en a, je crois, que deux ou trois qui ont vraiment eu des formes d'homophobie directe, du type insultes écrites sur ta maison, ou bien des insultes frontales dans la rue ou quoi. Mais par contre, c'est vrai que ce qui ressortait quand même de quasiment tous les discours, c'était je fais gaffe à pas trop faire comprendre que je suis homo. Donc une forme d'autocontrôle, quoi, une forme de coercition sur soi pour quand même faire attention. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours le fantasme de l'homophobe qui est au coin du bois et qui t'attend, quoi. Il n'y a peut-être pas tellement d'homophobie, de marque d'homophobie expérimentée, mais en tout cas, elle est toujours latente dans les esprits, quoi.
Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que l'homophobie, c'est un espèce de fait culturel. Tu dis il y a un homophobe latent au coin du bois, mais est-ce que ça peut pas être dans n'importe quel coin de rue d'une cité ou enfin en quoi ça marquerait une sorte de différence entre le milieu rural et le milieu plus urbain ou tout ça, enfin.
Bah, ça c'est un peu de l'ordre du fantasme, quoi. Enfin, par exemple, j'avais interrogé une personne sur en lui demandant, imagine t'es avec ton ami et vous vous baladez dans une grande ville, est-ce que tu vas lui donner la main? Enfin, imaginons que vous avez l'habitude de vous donner la main. Enfin, c'était une personne qui avait l'habitude de donner la main à son ami. Imagine que vous vous donnez la main. Oui, bah oui, on le fera dans une grande ville, il n'y a pas de problème. Imagine maintenant que c'est dans la ville qui est proche de là où t'habites, en milieu rural. Alors là, je le ferai pas parce que je suis quasiment sûr de tomber sur quelqu'un, même dans la ville qui fait 20 000 habitants, là, je suis quasiment sûr de tomber sur quelqu'un qui va me voir et j'ai pas envie d'être grillé. Imagine maintenant que tu donnerais la main dans une petite ville de la même taille, mais que tu connais pas du tout, qui est hyper loin de ta ville. Ah bah là, il n'y a pas de problème. Là, je le ferai. Imagine que tu le fais dans un petit village que tu connais pas. Ah là, non, par contre. Donc il y a vraiment ce truc où, dans différents lieux où il y a le même degré d'anonymat, et ben il y a quand même un truc qui est projeté sur le village ou le milieu vraiment rural, profond, entre guillemets, là, qui est fantasmé comme étant plus dangereux, quoi. Et ça...
ça vient...
Non, mais ça, je pense que ça vient de plein de trucs, même un peu de de cette image quand même que la ville, ça permet une forme de liberté un peu plus grande. Je sais pas, la vision, je sais pas, du chasseur avec un fusil qui. Il y a des visions dans le monde rural qui peut-être font plus peur, les personnes avec des outils par exemple. Mais après, c'est aussi les mêmes fantasmes qu'on peut retrouver sur les cités, par exemple, les personnes qui vont dire « Ah, dans tel quartier, en ville, j'oserais pas le faire. » Et ça veut pas forcément dire qu'il y a plus d'homophobie dans ces lieux-là, mais en tout cas, c'est qu'il y a un fantasme collectif autour de certains lieux, ouais, qui sont connotés comme étant dangereux. Alors qu'en réalité, parfois, l'homophobie, elle est pas du tout là où on pense qu'elle est, quand même. Et après, c'est vrai que ça change aussi vachement d'un milieu rural à un autre. Moi, mon terrain, il était en Picardie, dans un espace où il n'y a pas tout ce retour à la terre de gens qui ont peut-être un parcours politique qui font qu'ils ont déjà un peu réfléchi à ces questions-là de discrimination, de sexualité. Et c'est vrai que c'est un milieu rural où clairement, ils aient moins bon être homo, quoi. Donc en France, il y a une diversité de milieux ruraux qui est telle qu'on peut se sentir complètement tranquille ou au contraire pas tranquille du tout.
Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Regardons autour de nous comme chaque amour va son propre pas. Le berger doit suivre ses chèvres, le chasseur la biche aux abois, et le dévot pose ses lèvres sur de simples morceaux de bois. Un monsieur aimait un jeune homme, cela n'a rien que de banal. Les habitués des hippodromes font des folies pour un cheval. Et je dis qu'ils vivaient ensemble une même maison. C'était plus commode, il me semble. Si c'est vrai, ils avaient raison. Un monsieur aimait un jeune homme, méprisant toute précaution. Ils allaient dans les vélodromes, le vélo c'était leur passion. Ces spectacles font d'habitude moins de victimes que l'alcool. Combien pousse la turpitude jusqu'à hanter les music-halls. Un monsieur aimait un jeune homme, il lui payait tous ses cahiers. Le monsieur était économe, le jeune homme était écolier. Il lui payait aussi ses livres, lui donnait parfois quelque argent. Il en faut bien un peu pour vivre, laissons vivre les jeunes gens. Un monsieur aimait un jeune homme, il marchait la main dans la main. Ils s'en allèrent jusqu'à Rome, par les détours et les chemins. Et là, presque aux yeux de Saint-Pierre, en visitant le Colisée, alors n'en faisant plus mystère, ils échangèrent un baiser. Où croyez-vous que nous en sommes, jusqu'où nous conduisent nos pas? Un monsieur aimait un jeune homme, il est si doux d'être papa.
Voilà, on vient d'écouter Juliette Gréco qui vient de bluffer tout le monde en interprétant une chanson de Martin Péné. On reprend l'entretien avec Arthur et notre thématique de ce soir, être pédé à la campagne. Alors, pour reprendre le fil conducteur, la densité d'habitants en milieu rural est plus faible qu'en ville. Le fait qu'il y ait moins d'habitants implique qu'il y ait moins d'homos à la campagne. Et qu'en conséquence, cela augmente la complexité pour se rencontrer.
Ouais, pour rebondir directement sur ce truc de numérique, là, du coup, ça me fait penser au. Il y a une grande enquête sur la sexualité qui a été menée par Michel Bozon et Nathalie Bajot, je crois, il y a quelques années. Et du coup, eux, ils en avaient tiré des statistiques, donc elles valent ce qu'elles valent. Mais ils parlaient en tout cas de 6% de la population urbaine qui était donc des lesbiennes et 7,9% de gays. Alors qu'en milieu rural, c'était plutôt l'inverse. C'était 3,5% de lesbiennes et 2,8% de gays, quoi. Donc en gros, qu'il y avait moins de... Enfin, en gros, il y avait moins de personnes homo à la campagne.
Il y aurait moins de...
Voilà, il y aurait moins de personnes homo à la campagne qu'en ville. Et la proportion de lesbiennes est plus grande en campagne qu'en ville. Voilà. Et c'est vrai que du coup, l'invisibilité du fait qu'il n'y ait pas de lieu de rencontre, en fait, il n'y a pas de bar ou de boîte LGBT à la campagne, ou alors ils sont très rares. Du coup, c'est vrai que pour se rencontrer, bah, il faut trouver d'autres moyens. Il y a les lieux de drague en extérieur, du coup, pour vraiment des rencontres sexuelles. Mais c'est des lieux, déjà, il faut savoir où ils sont. Donc c'est quand même pas toujours évident. Il faut déjà une forme de connaissance, de capital un peu spatial là, pour retrouver ces espaces. Et c'est aussi des espaces qui en rebutent plus d'un ou plus d'une, parce que c'est des endroits un peu de consommation sexuelle anonyme qui sont pas forcément hyper agréables. Du coup, une des choses qui a vraiment révolutionné les rencontres en milieu rural, ça a été Internet, quoi. Parce que du coup, la distance était plus entre les personnes homo du milieu rural et celles de la ville qui se rencontrent, mais la distance entre des personnes homo qui sont dans le milieu rural les unes les autres, qui se côtoient peut-être, qui se croisent peut-être au quotidien sans savoir qu'elles ont cette spécificité commune là. Du coup, voilà, Internet, ça a permis de rencontrer des gens qu'on côtoyait au quotidien, peut-être des gens que tu croisais dans ton village, dans la rue, et de se rendre compte qu'ils partageaient cette spécificité d'être homo. Et c'est comme ça qu'il a pu se créer tout un tas de réseaux, en fait, de gens qui se rencontrent via Internet, et qui après, du coup, vont se rencontrer dans la vie réelle, et créer des formes de réseaux d'interconnaissance qui sont complètement invisibles, parce que ce sont des gens qui vont pas du tout se rencontrer... Par exemple, parce qu'ils partagent des loisirs communs. Enfin, c'est un mode de rencontre qui ne correspond pas du tout à ce qu'il peut y avoir habituellement. Ce n'est pas des gens qui vont faire du rugby ensemble, ou bien des gens qui vont se retrouver dans le club de machin. C'est vraiment uniquement sur ce partage de la sexualité. On se rencontre via Internet, et du coup, on rentre dans un réseau d'interconnaissance. Et ça peut être, je sais pas, disons la moitié d'un département, et ben, y a une centaine de personnes qui se côtoient comme ça, qui font des dîners entre elles, et qui du coup, par exemple, bah, partagent pas du tout les mêmes centres d'intérêt, des gens qui viennent de milieux sociaux hyper différents, qui se seraient pas rencontrés sans ce truc commun de l'homosexualité. Et ça forme un peu ce que Foucault appelle une forme d'hétérotopie, là, de monde caché, qui est complètement en dehors de la norme. Une notion un peu qui a été reprise par Roger Brunet, qui parle de l'anti-monde. Ça, un espace comme ça qui est avec des formes d'interconnaissance qui sont cachées et qui sont en filigrane du monde, mais qui sont pas visibles. Et ça, je trouve ça en tout cas assez intéressant, et qui est particulièrement présent dans le milieu rural, quoi. Parce qu'il n'y a pas de lieu réel pour se rencontrer.
En même temps, j'imagine que les gens, ils continuent aussi de potentiellement d'aller à la ville, là où justement il y a des lieux de rencontre.
Bah ouais, il y a aussi toutes ces distances là parcourues entre les lieux de vie pour les personnes en milieu rural ou les petites villes, qui vont aller dans les grandes villes, là où il y a des espaces de rencontres comme des bars, des boîtes, des espaces de loisirs LGBT, quoi. Et du coup, ça fait des distances qui sont grandes, quoi, généralement. Enfin, les gens en tout cas sont prêts à parcourir des grandes distances, parce que le service qu'ils cherchent est rare, donc il est... Mais du coup, c'est une mobilité qui est parfois un peu subie, quoi. C'est des distances, des coûts qui ont un coût. Il faut avoir une voiture, généralement. Un coût financier, mais aussi un coût en termes de savoir, quoi, de capital spatial, comme dit Bourdieu. Et du coup, il y a des inégalités face à ce capital-là, quoi. Donc il y a des personnes qui vont pas forcément parcourir ces distances qui les rapprochent de d'autres homos en ville. Et du coup, l'arrivée de Internet, ça a un petit peu aplani, entre guillemets, ces inégalités-là. Parce qu'il suffit d'avoir une connexion Internet pour rencontrer des gens beaucoup plus proches.
On a parlé d'aller à la ville, mais finalement, il y a aussi ce phénomène que potentiellement la ville trouverait à aller à la campagne volontiers.
Mmh. Bah, y a vraiment une sorte d'exode urbain vers le rural, quoi. De gentrification rurale, on peut dire. Et c'est vrai que les homos ont vraiment leur part là-dedans, enfin, dans ce processus-là de retour vers la campagne, quoi. Et en fait, d'ailleurs, quand j'ai commencé cette recherche, je suis tombé un peu sur des travaux de sociologues qui parlaient de ça, de la gentrification rurale par les homos, qui faisait partie un peu de cette catégorie, un peu faire de lance, quoi, de la gentrification rurale. Des homos, on peut dire un peu 30-40 ans, plutôt friqués, plutôt bobo, bio, retour à la terre, quoi. Donc, du coup, comme tu dis, après, des personnes qui vont. Des personnes des grandes villes qui vont essayer de chercher à rencontrer d'autres homos en milieu rural, pour un peu pour tâter le terrain, pour voir si c'est les milieux ruraux qui convoitent sont gay-friendly, sont habités par des gens avec qui ils pourront partager ça, quoi. Mais du coup, il y a vraiment des trajectoires comme ça, de la ville vers la campagne. C'est pour ça que la théorie de la fuite vers la ville des homos est quand même vraiment à nuancer, quoi. This nigga right here. This nigga right here. Fuck you. You wanna find me, cause of my sexuality. You wanna cause beef, cause everybody call me a faggy. You wanna fight, y'all wanna fight. He wanna fight. Every insecure nigga in the hood wanna fight. You wanna fight me, cause of my sexuality. You wanna cause beef, cause everybody.
Voilà, c'était le rappeur gay américain Lonnie et le morceau s'appelle Fight the Gaze. On revient à notre sujet du jour, être pédé à la campagne, avec Arthur qui nous explique les rouages des rencontres sur Internet et les avantages des nouvelles applications pour smartphone.
Et moi, du coup, cette recherche, je l'ai fait en me créant des profils sur plusieurs sites de rencontres. J'ai privilégié les sites de rencontres gratuits. Du coup, il y avait Gayvox, GayRoméo et GayPax, qui sont des sites aussi bien pour les lesbiennes que pour les gays. Moi, je m'étais créé des profils en tant que mec. Et du coup, ça fait que ça a été hyper compliqué de rencontrer des lesbiennes. Parce qu'il y avait toujours... Il y avait toujours la suspicion que j'étais un hétéro qui fantasmait sur les lesbiennes. Du coup, ça a beaucoup limité mes contacts avec des gouines. Et voilà, du coup, sur ces sites de rencontres, il y a tout un tas de critères à entrer pour se faire un profil, dont le critère géographique, quoi. Où est-ce que j'habite? Et clairement, je me suis rendu compte que les gens qui avaient des profils sur ces sites, ils privilégiaient des villes moyennes ou grandes, quoi. Mais y compris quand ils vivaient au milieu rural, ils préféraient écrire qu'ils habitaient dans une ville plutôt de bonne taille, quoi. Et donc, du coup, en approfondissant la question, il s'est avéré que c'était vraiment une stratégie, en fait, qu'à partir du moment où tu étais inscrit sur une grande ville, bah, tu avais beaucoup plus de chances de rentrer en contact avec les gens de cette grande ville, qui cherchaient des gens proches d'eux, et aussi avec les gens de la campagne autour, qui vont plutôt chercher vers la grande ville, parce que déjà c'est plus simple sur les moteurs de recherche des sites. Et aussi parce que y a un peu ce fantasme que à la ville il y a plus de choix, il y a plus de gens qui sont libérés, beaux, enfin tout un tas de fantasmes.
Il y a plus.
Il y a plus, voilà. Du coup, c'est une stratégie pour maximiser ses chances de rencontre que de se faire passer pour citadin, quoi. Et ces trucs-là de passing géographique là, dont je parlais, va pas paraître moins bouseux, même aux yeux des citadins. Qui chercherait des relations, bah, au moins tu parais moins bouseux parce que tu fais croire que tu habites en ville. Et ça, en fait, ça a été complètement balayé avec des nouvelles applications de rencontres comme Grindr et Hornet, qui sont des applications qu'on peut avoir sur smartphone et qui permettent de géolocaliser les personnes qui sont en ligne. Du coup, quand on ouvre cette application, on tombe sur une liste de gays, disons, qui sont autour de là où on habite, avec en premier ceux qui sont les plus proches. Du coup, on peut savoir qu'il y a une personne qui est à 5 km ou une personne qui est à 2 km, parce qu'elle est connectée, du coup, elle est géolocalisée. Même si cette personne a écrit sur son profil qu'elle habitait à une ville à 20 bornes ou à 100 bornes d'ici. Et du coup, ça fait que...
Tu peux rencontrer des touristes.
Tu peux rencontrer des touristes, voilà. Et surtout, tu vas rencontrer des gens qui sont beaucoup plus proches sans avoir à passer par l'idée qu'il faut passer encore par la ville, quoi.
Et c'est l'impression qu'il pourrait y avoir une sorte de retard technologique en milieu rural. Est-ce que maintenant tout est immédiat et que du coup... qu'on soit gay à la campagne ou à la ville, on a le même accès aux informations concernant des nouvelles applications qui permettent de plus facilement rencontrer des gens. Est-ce que du coup il y a une réalité rurale de l'accès à la technologie qui arrive après tout le reste ou pas du tout, d'après toi?
Bah oui, quand même. C'est-à-dire que on a beau dire au 21e siècle l'urbanité, là, en gros, toutes les caractéristiques du monde urbain se sont infiltrées, y compris dans le monde rural, et que du coup, on peut avoir accès à toute une sorte de vie citadine dans le monde rural. Bah, ça, c'est évident. Enfin, la dichotomie rurale-urbain, elle est quand même vraiment amoindrie par rapport à il y a 10-15 ans. Mais il en reste pas moins quand même des petites différences. Et c'est vrai que ce truc du degré de connexion, là, du haut débit, de l'ADSL, ça a vraiment fait un peu un rapport au site internet à deux vitesses, quoi. Entre le milieu urbain où bah, très rapidement les sites internet ont été utilisés et le milieu rural où c'est arrivé quand même plus tard, quoi. Et même aujourd'hui, il y a quand même tout un tas d'endroits où dans le milieu rural, bah, on peut pas trop capter au téléphone, où la connexion internet est pas toujours aussi évidente. du coup, ça existe, mais ça reste quand même assez anecdotique, quoi. Du coup, voilà, bah, des trucs comme le satellite, la 3G, ça a permis à des zones rurales enclavées, entre guillemets, de pouvoir avoir accès à des rencontres par Internet, quoi.
Est-ce que c'est pas un moyen aussi de se rendre compte qu'il y a vraiment personne autour, là ? Enfin, les technologies sont de plus en plus accessibles, et puis est-ce que ça fait forcément exister plus de monde ?
Bah, moi, j'ai l'impression que oui. Parce que ça fait exister... Enfin, en fait, ça enlève le masque de toutes les personnes qui ont réussi à se rendre invisibles. Toutes les personnes homo qui ont réussi à faire croire aux autres qu'elles étaient hétéros. Et ben là, avec toutes ces applications, ces sites et tout, le masque tombe parce qu'on se rend compte bah, voilà, que dans un rayon de 5 km, en fait, il y a 4 ou 5 LGBT qu'on n'imaginait pas du tout. Ouais, enfin même au niveau de tous les entretiens que j'ai pu avoir avec les enquêtés, il y a vraiment il y a une sorte d'engouement, enfin de merci Internet, quoi. C'est un truc qui revient vraiment régulièrement. Du coup, ouais, moi je vais vraiment dans le sens où ça multiplie les possibilités de rencontres, ça multiplie les et surtout le sentiment de pas être seul. Parce que à la base, en fait, de tout ce processus de rencontre et de s'assumer comme LGBT, ce qui déclenche le fait qu'on n'a pas l'impression d'être complètement anormal ou malade ou quoi, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, les sites internet, et même l'accès à internet, c'est quand même un des moyens, en milieu rural, de prendre conscience de ça, quoi. Parce qu'on peut pas être dans une grande ville où on croise des couples de même sexe qui se prennent par la main. On n'est pas dans une grande ville où il y a un quartier gay. Du coup, c'est la télé qui vont montrer une certaine image des populations LGBT. Ou après, les recherches un peu personnelles via Internet, quoi. À l'adolescence, enfin un moment là de passage à l'âge un peu plus adulte, où on peut avoir accès à un Internet qui est un peu plus privatisé, quoi. C'est pas l'internet des parents dans le salon, mais c'est plus l'internet dans la chambre, et où du coup on va se permettre d'aller sur certains sites où on pouvait pas aller avant, comme par exemple les sites homo, si on sait que les parents vont mal le prendre s'ils s'en rendent compte, quoi. Et là c'est souvent un peu le basculement d'un truc qui est vécu complètement seul au fond de toi, vers un truc où en fait je suis pas seul, ça existe, je peux tomber sur des modèles, des gens qui vivent ça, je peux parler, chatter, et là il y a tout un processus un peu positif qui se met en route, quoi.
Pendant trop longtemps de plus savoir comment aimer. oui, oh momo. C'est ma façon de l'aimer, oui, oh momo. C'est ma sexualité, oui, oh momo. C'est ma socialité, oui, oh momo. C'est ma sensualité, oui, oh momo.
Voilà, c'est un morceau qui s'intitule Bohème, du chanteur Infidèle Castra. C'est l'actuel nom de scène d'une ancienne figure de la Croix-Rousse des années 90. Pour toutes celles et ceux qui ont connu les pentes à cette époque, fortes en squat et en rébellion.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, dans l'émission Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes. On continue avec Arthur à discuter de la condition d'être PD à la campagne.
Moi, je me demandais du coup s'il y avait un fantasme gay du rural, de la nature, des agriculteurs, des tracteurs, tout ça. Est-ce que...
bah ouais. Enfin, en tout cas, un fantasme de la nature, carrément. Enfin, ça, je réponds un peu comme ça parce que ça me paraissait assez évident que toute cette imagerie qu'on peut avoir... Dans toute la subculture gay. Là, je parle vraiment plutôt gay et pas forcément lesbien. Ouais. Bah, autour un peu de le fantasme grec, l'amour grec, dans la forêt, les faibles nus, le bord du ruisseau. Enfin, il y a quand même toute une imagerie un peu bucolique là autour de ça. Et du coup, c'est un truc qu'on retrouve, y compris maintenant dans la pornographie, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de films porno un peu sur le thème amour dans la nature qui se passe dans des fermes, quoi, où un peu c'est le fermier avec l'apprenti fermier, par exemple, la botte de foin, et allez, on s'amuse, quoi. Du coup, il y a quand même un truc autour de ça. Enfin, c'est un petit peu un poncif certaines formes érotiques, visuelles, vidéos et tout. Et après, le fantasme de l'agriculteur, bah ouais, aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux grandes catégories de fantasmes autour de l'agriculteur, qui serait un peu, d'un côté, le jeune et faible, plutôt imberbe, qui serait plutôt le pâtre, le petit berger, en toge, à moitié torse nu, dans la forêt. Donc ça, donc tout un truc autour du...
Vierge,
voilà. Du coup, un truc plutôt de l'ordre du mythe, un peu hein, vraiment le fantasme. Et après, plus un fantasme peut-être un peu plus concret, un peu plus ancré, autour de l'agriculteur, un peu baraque, un peu poilu, pilosité importante, un peu comme un bear, quoi, un ours. Et du coup, plus un truc de virilité, de canon de la virilité. Donc voilà, le genre de mec qui descend du tracteur avec du cambouis sur les mains, qui va pas se déshabiller, qui va juste ouvrir sa braguette. Et ouais, voilà, tout un tas de fantasmes autour un peu plus de viril, amour brut, etc. Mais bon, ça reste quand même de l'intuition et il faudrait creuser pour dire des choses un peu plus certaines. Mais en effet, moi, je pense vraiment qu'il y a Il y a une forme de fantasme autour de cette profession qui tourne autour de la nature, du manuel, du corps, le corps contre les éléments, le corps dans la nature. Et forcément, il y a quand même toute une imagerie gay qui fait référence. Donc, je pense qu'on peut parler un peu de fantasme.
Et pour illustrer ça, il y avait le numéro de l'étu.
Ah oui, très marrant. Alors le numéro de l'étude, en fait, c'est les étudiants de l'école de journalisme de Lille qui travaillent sur, enfin qui reprennent des journaux ou des périodiques connus et qui les caricaturent, enfin qui apprennent à en faire un en les caricaturant. Et donc là, ils ont caricaturé Tétu.
Donc Létu, ça s'écrit L-E-T-U.
Avec le petit accent circonflexe quand même pour faire penser à Tétu. Et donc sur la couverture de Létu, nous avons une grande baignoire remplie de lait avec un agriculteur à poil dedans. Et justement, bah, on peut voir l'agriculteur qui est plutôt costaud, avec des gros muscles, un peu de bedaine, pas mal de poils, les bottes, une légère barbe, et qui doit avoir entre les 30 et 40 ans, quoi. Le genre daddy agriculteur.
Pas trop barbure chevelue en sandales, quand même.
Voilà, non. Avec des petits articles, la France qui pédale, le monde rural pas très gay, etc., etc.
Du coup, c'est une référence biblio qu'on peut donner. Je sais pas, ça se trouve sur Internet ou non.
On peut le trouver sur Internet. Enfin, en tout cas, on trouve la couverture sur Internet. Et
pour lire les articles, par exemple.
Pour lire les articles, il faut plutôt envoyer un mail à l'école de journalisme.
D'accord.
ESJ Lille, voilà.
Ça existe des sites de rencontres gays ruraux?
Site de rencontre gay ruraux, et ben peut-être que depuis 4 ans que je me suis pas repenché sur la question, ça existe, mais... Ah mais si, il y a 4 ans, j'étais déjà tombé sur le réseau des gay farmers, du coup qui est un réseau de sites qui met en relation les farmers gay, du coup c'est aussi lesbien, mais c'est essentiellement, c'est des sites qui sont bien utilisé par les anglo-saxons, il y a pas mal aux Pays-Bas, en Allemagne, mais le site français, il n'y a quasiment rien dessus.
Voilà, donc c'était une première approche de la question de l'homosexualité en milieu rural, agréablement accompagnée par Arthur de son pseudo. Première approche parce qu'on aimerait bien parvenir à produire prochainement un deuxième volet autour de cette thématique, en approfondissant la question d'être paysan et paysanne et homosexuel. Et d'ailleurs, si vous êtes directement concerné et que cela vous dit de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur le blog de l'émission http://blogs.radiocanu.org/lutte-paysanne/. C'est sur ce même blog que vous pourrez prochainement réécouter et télécharger cette émission. Et puisqu'il reste un peu de temps, on voulait faire passer 2-3 infos sur des initiatives et des dates à retenir, à commencer par ces rencontres qui sont organisées prochainement dans le sud-ouest par le réseau Reclaim the Fields autour de l'épineuse question de l'accès au foncier, de l'installation agricole et donc de la transmission des fermes. Alors, les rencontres s'appellent le Foin Levé. Pour des fermes autonomes partout, transmettons, installons. Une rencontre thématique du réseau Reclaim the Fields. Donc, ça se passe du 26 février au 1er mars, dans un lieu qui s'appelle Lille, près de Toulouse, au sud de Toulouse, à Vieille-Vigne. Et l'invitation dit... D'après le ministère de l'Agriculture, 20 000 fermes sont concernées chaque année par le départ en retraite des exploitants et exploitantes. Et 13 000 installations seulement se font. Pourtant, nous connaissons tous et toutes des personnes en recherche de terres ou de fermes où s'installer et monter des projets. Projets hors cadre ou atypiques, difficultés d'accès aux moyens financiers, agrandissement des exploitations voisines, fermes trop petites, ce sont les raisons avancées pour expliquer cette situation. Nous sommes un certain nombre à penser qu'il faut installer du monde dans les campagnes, dans une perspective de sortie du modèle économique et politique qui montre chaque jour un peu plus ses limites. Le modèle agricole, issu des politiques productivistes et capitalistes des 60 dernières années, n'a pas d'avenir. Et la transmission des fermes nous semble un bon moyen pour le changer ensemble, pour y trouver des moyens de lutter, pour des moyens de construire des autonomies et des solidarités. Dans les 10 prochaines années, près de 50% des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à comment conserver de petites fermes. Comment sortir des terres et des activités de la logique marchande? Redonner une place à l'agriculture vivrière? Comment donner des suites aux mouvements paysans qui ont lutté jusqu'ici? Comment vivre ensemble? Comment donner envie? Dans cette perspective, nous organisons pendant 4 jours une rencontre thématique sur la transmission des fermes et l'installation de personnes et de collectifs à la campagne.
durant les deux premiers jours. Nous questionnerons nos imaginaires autour de quatre grandes thématiques. Le rapport au travail, la place dans les territoires ruraux, le rapport à la propriété privée et comment s'organiser et vivre ensemble. Le troisième jour aura pour but d'analyser ce qui existe actuellement et ce qu'il y a à faire pour répondre aux questions et objectifs issus des deux journées précédentes. Il se modulera autour de trois ateliers. Les différentes façons d'accéder au foncier collectivement, les différentes manières de s'officialiser pour cultiver collectivement avec un statut juridique et l'influence de ces formes d'organisation sur le statut, cotisant solidaire, agriculteur à titre principal ou autre, et les failles pour une appropriation du foncier et l'accès aux terres agricoles, terres incultes, squats, friches, terrains communaux, sectionaux, etc. Enfin, le quatrième jour sera l'occasion d'une rencontre avec des paysans et des paysannes qui sont ou ont été dans cette démarche de transmettre leur ferme, afin d'échanger ensemble sur des possibles ou des expériences concrètes. Ce sera aussi un moment pour faire un bilan de ces rencontres et de préparer la suite à y donner. N'hésitez pas à faire circuler cette information dans vos réseaux et autour de vous. Et en prime, il y a un petit topo sur ce que c'est Reclaim the Fields. Reclaim the Fields est une constellation de personnes et de collectifs qui veulent retrouver le contrôle de la production alimentaire. Nous sommes déterminés à sortir du capitalisme au travers de modes de production coopératifs, collectifs, autonomes et répondant à nos besoins. Nous ne sommes pas un groupe homogène, nous traversons les frontières sans hiérarchie et sans tolérance des formes de discrimination et d'exploitation des personnes. Nous soutenons les luttes et visions de la Via Campesina. Nous souhaitons partager les connaissances et l'expérience acquises au fil des années de militance et de vie paysanne et de les enrichir avec les perspectives de celles et ceux qui ne sont pas ou pas encore paysannes. Et puis sinon, le 21 février, une journée nationale s'organise en soutien au mouvement des ZAD et contre le monde des bétonneurs. Donc au moins deux rassemblements d'ampleur sont prévus à Nantes et à Toulouse. Un des enjeux de cette journée serait de lier les histoires locales entre elles, Nantes, Notre-Dame-des-Landes, Toulouse, le Testé, etc. comme autant de ramifications d'un mouvement populaire fort. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous rendre à cette manif le 21 février. Et puis enfin, sachez d'ores et déjà que la même date sur Lyon, donc le 21 février, on organise une petite soirée de soutien à l'émission « Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes ». En fait, c'était surtout une envie de tenter de réunir des personnes qui ont de près ou de loin participé à l'émission, ainsi que les personnes sur Lyon et au-delà qui nous écoutent et nous soutiennent. Alors ça se passe à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e. Il y aura sûrement une petite discussion tout azimut sur les luttes paysannes du moment. Et puis un repas prix libre, de la bière et un peu de musique kurde. Et vous trouverez prochainement toutes les infos sur le blog dont je redonne l'intitulé http://blogs.radiocanu.org/lutte-paysanne.
Le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse, il n'a pas mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place maintenant.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Bichonnons une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.